c'est le gosse de Marseille, Jules, qui était là, qui était à l'honneur.
Ben voilà. Moi, je pense que sa place était tout à fait justifiée. Il ne faut pas lui chercher des points.
Oui, mais toi, il y a un tweetos qui disait, c'est pas l'Energy Music Award, quoi, c'est les JO.
Justement.
On n'est pas là pour choisir le chanteur le plus populaire. On est là pour choisir peut-être quelqu'un qui représente le mieux la France.
Monsieur Jean-Loup Bonamy.
Écoute, sur le sujet précédent, on parlait de décadence. Je pense que ça continue tout à fait.
Jules, c'est la décadence.
Non. Je réponds, Jules, ce n'est pas la décadence en soi, et je n'ai rien contre Jules, mais le fait de l'avoir choisi dans un événement éminemment symbolique censé représenter la France dans le monde, évidemment que c'est un signe de décadence. Et d'ailleurs, quand tu vois la liste pour ces Jeux Olympiques, j'avais vu l'histoire, c'était quoi le drag queen là qui a été félicité par Sandrine Rousseau ?
Miss Martini.
Ah, Miss Martini. Sandrine Rousseau lui a dit bravo pour ce que vous faites. Donc le drag queen. Plus Aya Nakamura, plus Jules, eh ben dis donc, les JO en termes de prestige symbolique de la France dans le monde, à la fois vis-à-vis de sa propre population et dans le monde, me paraît quand même fort compromis. Et surtout, je te parlais de décadence. Regarde, tu vois, regarde les textes de Jules. Il y a trois jours, là, on était sur la mort de Bernard Pivot. Tu vois, ça me paraît assez symbolique. Mort de Bernard Pivot.
Il est mort de
Jules qui va porter la flamme. Voilà, Jules m'a tué. Quand tu vois les textes de Jules, tu vois qu'il y a un effondrement de la qualité, même sur le plan du texte, même sur le plan linguistique. Et si tu voulais prendre des gens, tu pouvais prendre Zidane, comme on en avait parlé. Tu pouvais prendre, alors là, il est à l'Eurovision à Malmö, mais tu aurais théoriquement pu prendre Slimane. Tu aurais pu prendre le rappeur Soprano, qui lui est de Marseille et qui a des textes de bien meilleure qualité et qui lui, là, ça aurait pas été la décadence. C'est un rappeur, mais il a des textes beaucoup plus écrits, beaucoup plus travaillés. Tu aurais pu prendre Indila, qui est la première française à avoir fait 1 milliard de vues sur YouTube. Zidane, on l'a dit. Donc, tu pouvais prendre Kenza Farah, elle est de Marseille. Et d'ailleurs, elle a fait un duo avec Jules. Mais en général, les textes de Kenza Farah, ils sont quand même nettement plus travaillés que ceux de Jules. Donc, tu pouvais prendre plein d'autres personnages. Et c'est pas parce que notre ami Jules, c'est le S, vend des millions d'albums. Enfin, je veux dire, c'est pas la quantité, le marché, la masse, c'est pas un gage de qualité. Et c'est pas suffisant pour représenter la culture française. Mais bon, entre Aya Nakamura. Alors,
est-ce qu'il n'y a pas une volonté de réconcilier un peu toutes les générations, de faire en sorte que les JO n'appartiennent pas uniquement aux boomers
et
que les jeunes puissent aussi s'emparer des Jeux Olympiques.
Et quand tu vois la position de Gabriel Attal, à mon avis, c'est typique de quelque chose. D'ailleurs, ça a été très bien analysé de manière générale par Régis Debray, par exemple. C'est l'effondrement symbolique du pouvoir. Normalement, le pouvoir, ça repose sur une symbolique forte, sur de la distance, sur de la majesté, on prend de la hauteur. C'est ça le pouvoir. Là, le pouvoir est en train de se détruire lui-même par démagogie, en se mettant vraiment au
nouveau. Non,
c'est pas nouveau. Non, c'est pas
Emmanuel
nouveau.
Emmanuel Macron,
c'est comme ça
il
pouvoir...
fait ça tout le temps.
Nos amis, les deux youtubeurs, McFly et Carlito, qui ont fait des galipettes dans le jardin de l'Élysée. Et après, on s'étonnera qu'on viendra dire c'est terrible, il y a une crise de l'autorité, on ne respecte plus l'autorité de l'État.
Là, t'as pas tort, mais là,
c'est normal, l'État lui-même. Non, c'est extrêmement lié. C'est l'État lui-même.
Jules n'est pas responsable de la fin de l'autorité.
Non, c'est le fait de choisir.
Il n'est pas responsable que Macron parle trop.
Le fait que le gouvernement investisse Jules et en fasse un symbole pour porter la flamme olympique, c'est le gouvernement lui-même. Et après, en plus, c'est vrai, on viendra dire « Oh là là, les mecs des cités qui font des rodéos, c'est terrible. » Mais gars, t'as toi-même investi Jules comme un représentant de la France. Donc le pouvoir, par démagogie, une sorte de gauchisme culturel, comme le dit le sociologue Jean-Pierre Le Goff, qui en plus lui est de gauche, de gauchisme culturel où on va toujours dans le moins-disant culturel et qualitatif, et après on est surpris. Non, le pouvoir se sape
donc
lui-même.
Ce que tu veux dire, c'est que même, c'est pas un exemple pour tirer la jeunesse vers
le haut. Mais bien sûr, on la tire vers le bas.
Ouais, mais c'est pourtant. C'est
pas faux. On tire vers le bas, on n'encourage pas la qualité.
C'est
pas parce qu'elle aime quelque chose de nul qu'il faut lui en donner une libération.
C'est vrai.
Le succès n'est pas l'argument. Aimer quelque chose de nul, c'est très subjectif. Parce que dans les années 60, si tu veux, on cassait des disques d'Elvis Presley dans les années 50 en disant c'est nul, le pouvoir politique américain. Et finalement, ça
a été. Oui, mais Jules n'est pas Elvis Presley. Jules n'est pas Gainsbourg.
Bien sûr, mais ce que je veux te dire, c'est toujours subjectif. subjectif. Mais c'est l'histoire qui jugera si Jules reste
au football. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Jules, c'est pas Victor Hugo.
Mais bien sûr.
Oui, mais non, mais ce que veut dire Jean-Loup qui est intéressant, c'est la place du pouvoir et ceux qui ont l'autorité et la place des Français et la place de la, j'allais dire, du divertissement. Et lorsque tu ne fais plus de frontières et lorsque tu n'imposes plus justement une forme de statut, de qualité, etc., lorsque tu as le pouvoir et que tu veux te mettre au niveau du peuple, finalement, le peuple, qu'est-ce qu'il fait ? Il a plus la noblesse de la fonction. On a perdu la noblesse de la fonction parce que la fonction a décidé de se mettre au niveau du peuple à tous les niveaux et en particulier sur la littérature, sur le parler.
Voilà, bravo.
Et c'est un problème. Et c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, les enfants te disent, mais de toute façon, le prof, il te parle wesh-wesh parce que le prof, il a besoin de se mettre au niveau.
Là, c'est la culture wesh-wesh.
Non, mais
bien sûr, c'est le triomphe de la culture
wesh. Et c'est un problème. C'est un problème parce que si tu parles bien aux enfants, si tu t'exprimes correctement avec les enfants, si tu leur transmets cette culture de toujours faire mieux et toujours plus, et ben forcément ils se hissent vers le haut. Or aujourd'hui, depuis 40 ans, même moins que ça, mais 20 ans, les pouvoirs tendent à devenir populistes au mauvais sens du terme.
Ok,
démagogue.
Je suis d'accord là-dessus. Mais une dernière chose. Alors il faut quelque chose qui tire la jeunesse vers le haut. Alors on prend qui?
Non mais dans la fonction. Dans la fonction. Pour l'instant,
Très concrètement,
Je suis d'accord.
Pour ne pas être dans l'abstraction générale.
Oui, oui.
Ok.
C'est une question. On a dit Zidane, Soprano, Inzaghi, Kenza Farah. Moi, j'ai cité plein de noms. Hein.
Oui, mais.
Bah si, ils incarnent.
Mais en même temps, voilà.
Ah, tiens, attention, tu justement Kenza Farah. Toi, c'est le haut du panier.
C'est mieux écrit que Jules.
C'est mieux écrit.
Pour moi, c'est quand même ras du gazon.
Qui dit ça ? Attends, il faut que je dise une dernière chose très importante.
C'est subjectif.
Regarde ce qu'on a dit tout à l'heure.
C'est subjectif. Hein.
Jules, il répète toujours quelque chose. Par exemple, à propos de Marseille, de ses fans, de son public, il dit c'est le S, c'est-à-dire le sang. Oui. Tu vois bien que chez Jules, le texte de Jules, ça charrie vraiment les liens les plus archaïques, le plus tribal. Voilà, vous êtes ma communauté, vous êtes le sang. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bas.
Ah, puis je suis sûr qu'il y a quelque chose qui t'a fait plaisir dans la prise de parole de Jules, c'est ça.
Merci la zone.
Voilà, c'est la zone.
Merci la zone.
Merci, bravo la France.
Merci la zone.
Ça marque des points quand même là-dessus, Frédéric Farah.
Voilà.
Dans un instant, on en parle avec Karim, avec Julie, parce que ça y est, le 32-16.
Le GG, c'est le S.
Le 32-16.
Le GG.
Et tant, c'est le S. Et sans surchauffe, à tout de suite.
On va faire un signe pour les GG.
Merci la zone.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Elle me regarde que tu dis, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Si elle me quitte pas, je quitte pas.
Bah oui, mes petits enfants, ils sont à fond. Ils sont très très rap, mes petits enfants.
Moi, c'est avec l'autotune que j'ai du mal. Enfin, peu importe.
Imagine-t-on le général de Gaulle choisir Jules pour en autotune, les appels du 18 juin en autotune. Et surtout, imagine-t-on le général de Gaulle choisir Jules.
Non, le général de Gaulle aurait choisi Mireille Mathieu. D'ailleurs, elle est toujours là. Mireille Mathieu, elle aurait pu chanter.
Ah, mais
porter la flamme des JO.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'il aurait pas pris Johnny Hallyday à l'époque. Tu vois, par exemple, qui débutait et qui se roulait par terre, France aurait hurlé à la décadence.
C'est pour ça qu'on a dit en 68, 10 ans, De Gaulle, ça suffit.
Non, mais Johnny Hallyday, c'est Place de la Nation, le concert Place de la Nation. Mes parents y étaient, donc ils m'ont raconté Place de la Nation, où on casse tout. Et Johnny Hallyday, à l'époque, c'est le Jules d'aujourd'hui, quoi. En fait,
bien sûr.
Plus rebelle, même.
Mais ce concert de la Nation est un moment essentiel dans l'histoire. En juin 63, ce concert est fondamental parce que quand il est lancé, les organisateurs ne pensent pas qu'il y aura autant de monde. Donc, on pense qu'il y a quelques jeunes qui vont se réunir à la place de la Nation. Et c'est un moment, l'acte de naissance d'une certaine jeunesse qui se retrouve avec tous leurs idoles, des yéyés qui sont là, et reflue presque 50 000 personnes vers la place de la Nation en juin 63. Hein, donc, c'est un moment.
Alors, parlons-en avec Karim qui nous passe un coup de fil au 32-16 du Vaucluse. Bonjour Karim.
Bonjour Alain, bonjour les GG.
Bonjour Karim.
Qu'est-ce que vous en dites? Vous faites partie de ceux qui regrettent, ceux qui applaudissent? Dites-moi tout.
Alors vous savez quoi? J'ai passé la journée entière, du matin jusqu'au soir, sous le Vieux-Port. Alain, c'est Karim Delagne, le technicien télécom.
Ah ben oui, bien sûr, on s'est vu, bien évidemment. Et voilà, vous étiez venu avec un cadeau pour Joël, bien sûr Karim.
Exactement Alain, voilà.
Bien sûr.
Alain,
oui.
Ma fille m'a rejoint de 12 ans, oui, avec deux garçons,
oui,
d'accord. Et on s'attendait tous à voir Zinedine Zidane.
Ah.
Et quand il y a eu finalement Jules, moi c'est simple, je regardais autour de moi. Si vous imaginez les enfants, comme ils étaient contents, comme ils sautaient de joie, comme ça criait.
J'ai vu, il y en avait qui pleuraient.
Tous ces enfants-là.
Ben oui.
Ils étaient émus de voir. En fait, eux, Zidane, ça y est, genre, c'est, il y a 30 ans à l'arrière.
Oui, ça ne rentre pas aux enfants, Zidane.
Et en fait, voilà, la nouvelle génération, même si moi, ce n'est pas mon choix, il faut vivre avec son temps. Genre, moi, je suis fan de Cabrel et de Renault. C'est pas Renault et Cabrel qu'il fallait mettre sur la scène ce jour-là.
Ouais, donc il faut vivre avec son temps.
Ben
il faut, et ça, il faut le dire à Jean-Loup Bonamy qui vit au 19e siècle.
Olivier, je suis pas un politicien. On ne demande pas de parler correctement.
Je suis d'accord.
Voilà,
de manière générale, il faut arrêter de faire porter aux artistes. Et c'était d'ailleurs le débat notre premier débat avec l'Eurovision. Il faut effectivement arrêter de faire porter sur nos artistes le poids de nos problèmes, des maux de la société, de ce qui ne va pas. Et Jean-Loup, quand tu dis il y a une décadence et une perte d'autorité, enfin tu fais porter sur Jules, sur ses
non,
épaules.
Il a pas dit ça.
Mais allez-y, Karim.
Un petit mot pour Zora. Zora.
Oui, Karim.
Voilà, donc moi j'ai deux garçons qui ont 20 ans. Ils étaient d'ailleurs toute la journée au Vieux-Port. Il y en a un qui est polytechnique et un qui fait un master de gestion de finance.
Oui.
Quand ils s'adressent à la prof, ils disent pas wesh.
Oui, mais je sais bien, mais il y a tellement de jeunes extraordinaires, bien sûr.
Il faut la part des choses, surtout.
Mais Karim, juste deux secondes. Moi, j'interviens beaucoup auprès des jeunes en insertion, et 80% sont extraordinaires. Ils ont de la volonté, ils ont envie de s'en sortir, et c'est vrai qu'il faut leur donner des clés, il faut leur apprendre. Et quand ils prennent, eh ben, ça se passe super bien. Donc, il faut tirer vers le haut.
Mais Zora, ce qu'il vient de dire, c'est pas ça. C'est que les jeunes font la part des choses.
Moi, je suis
de la génération de Renault, c'était le Verlan.
Mais
ma grand-mère me disait, Renault comprend rien à ce qu'il dit.
Mais c'est plus
du français, c'est du Verlan, c'est pas possible. Et aujourd'hui, Renault, c'est considéré comme l'un des plus grands chanteurs français, et on le cite en exemple, la poésie de Renault. Donc en fait, chaque génération charrie son Renault.
Non, mais Jules, il a raison, Karim.
D'accord avec toi.
Il a raison, Karim, parce que moi, mes petits-enfants, s'ils avaient vu Jules arriver sur scène, ils auraient été dans un état incroyable.
C'est pareil, c'est la génération. Encore une chose, déjà on a passé une superbe journée, c'était exceptionnel, le monde entier avait les yeux sur Marseille pour une bonne chose et j'étais très très fier.
Mais autre chose,
il y avait deux autres stars, Alain et Olivier, c'était incroyable. Vers 16h45, je vois un attroupement au Vieux-Port. Je m'avance, je me dis qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens-là? Et qu'est-ce que je vois, Alain et Olivier en train de faire des selfies avec plein de minots. Mais je ne comprenais pas. Je me dis, mais comment ça se fait que ces petits-enfants-là, ils font des photos avec Alain et Olivier?
Et après, je dis, Olivier,
celui-là, il faut dans le plateau. Ils avaient pas changé certainement, ils étaient populaires.
C'est les plus grandes stars du PAF, 20 ans de GG.
Karim, on vous salue, on vous embrasse. À bientôt.
Bonne
journée. Salut, Karim.
Jean-Loup. C'est marrant parce que, professeur de philosophie, j'explique à mes élèves que je ne connais pas d'argument plus faible et plus creux que « il faut vivre avec son temps ». Voilà, justement, ça tombe bien, tu devrais prendre quelques cours avec moi, cher Olivier.
Moi, je ne vais pas faire semblant d'aimer Jules.
Oui.
Je n'aime pas Jules parce que je ne suis pas fan du rap et ce n'est pas ce que j'écoute. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui font semblant d'être jeunes en disant « ah oui, Jules, c'est génial », alors que…
Comme Gabriel Attal, qui a un électorat
de jeune.
Il est jeune, Gabriel Attal.
Il a 50 ans,
je vais pas faire semblant d'aimer Jules. Mais je comprends, moi, mes filles aiment Jules, et ceux qui aimaient dans les années 60 Mick Jagger et John Lennon, leurs parents devaient dire c'est inadmissible d'aimer Mick Jagger.
Je vais te répondre. Là, tu as dit très bien au début qu'il fallait séparer deux choses. Et là, c'est toi qui es en train de les mélanger. On n'est pas en train de critiquer Jul. Voilà, l'artiste, il vend ses 7 millions d'albums, très bien pour
c'est
lui.
C'est la caution du politique.
Voilà, exactement. On est en train de critiquer, comme le dit très bien Zora, la position symbolique qui investit Jul et le fait porter la flamme des JO. C'est deux choses très différentes. Voilà. Ce n'est pas à Jul qu'on fait ce reproche, c'est aux gens qui l'ont choisi. Lui n'y est pour rien, en fait. C'est pas
qui
contre lui
choisir
qu'on en a.
Ça, qui devait-on choisir?
Je t'avais donné l'exemple de Kenza Farah. Malgré son nom, n'est pas la cousine de Frédéric Farah.
C'était pas spectaculaire, Kenza Farah.
Non, mais c'était un exemple parce que c'était Marseille.
Ce que veut dire Jean-Loup, c'est que le positionnement du politique, là où il est, la hauteur et la distance qu'il doit prendre, détermine la façon dont la société évolue. Parce qu'il donne caution. Je vais vous donner un exemple. Quand Macron fait des trucs nazes ou Hollande, on dit qu'ils insufflent des vents contraires et du coup la société va mal. Donc quand ils insufflent des vents qui rassemblent et qui unissent et qui tirent vers le haut, ça marche aussi dans les deux sens. Donc ce sont leurs choix qui vont déterminer où va aller la société. Oui, c'est symbolique et philosophique.
Mais là où je partage pas, c'est sur un point, c'est que je ne crois plus aujourd'hui que les gens regardent le pouvoir en espérant que de là va venir des orientations, un mouvement. Aujourd'hui, je crois que dans la société, profondément, le pouvoir en hauteur qui expliquerait aux uns et aux autres ce qu'il faut faire, les directions, les gens n'y croient plus.
Frédéric, le vide, le pouvoir politique, ça compte plus. La spiritualité, ça compte plus. Le vide total et dedans, t'as toutes les dérives sectaires qui s'engouffrent.
Attends,
il faut rien.
Juste, les institutions sont tellement décrédibilisées, parole politique ne vaut tellement plus rien. Oui. Et croire aujourd'hui dans des sociétés plus éduquées, où on est allé plus loin dans la scolarité, qu'on va regarder vers le haut en disant ah, donne-moi la bonne parole, s'il te plaît, donne-moi la bonne direction, je n'y crois pas,
ça ne marche plus.
Je crois que les gens, ils se responsabilisent et quand un homme politique parle, si aujourd'hui on croit dans la parole d'un homme politique, il faut être quand même...
Ah mais maintenant, aujourd'hui, on croit en des gourous, des mecs qui te disent que la Terre est plate, que les dinosaures, ça n'a jamais existé.
Il y a quand même une nuance entre ne plus croire dans les institutions et croire que la Terre est plate ou je ne sais pas où qu'il y a des complots tous les soirs.
Alors, on va aller voir Julie, on va aller écouter Julie dans le Rhône. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bonjour, merci de votre patience Julie, vous avez écouté tout le monde. Et vous alors, vous avez choisi votre camp, qu'est-ce que vous en dites ?
Moi, en fait, je pense que le débat, c'est pas... Jul, oui ou non, en fait. J'aime pas Jul, hein. C'est pas du tout ma génération, pas du tout mon truc. Mais pour moi, en fait, je trouve dommage qu'on soit pas resté sur un sportif, en fait. Ça reste les Jeux Olympiques, et pour moi, Jul, c'est pas le bon choix, en fait, dans ce sens-là. J'aurais plus vu, alors pas forcément Zidane, mais quelqu'un de l'olympisme, en fait, qui représente
Intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a entendu d'anciens sportifs, y compris des médaillés, dire attention à ne pas donner la flamme, à ne pas la sortir trop de ce qui est son cadre. C'est-à-dire le cadre de l'universalisme sportif et olympique. Voilà, une partie de la société, il regrette, doit rester un peu à l'écart des Jeux Olympiques. Parce que sinon, c'est ce qu'il disait, vous allez toujours avoir une frange de la société qui va dire, ah ben pourquoi pas nous, alors, puisque vous l'avez donné au rappeur, pourquoi pas à d'autres, quoi, voilà.
Il y a ce problème-là, et puis il y a le fait surtout d'allumer, en fait.
Oui.
Après, il aurait pu être porteur, pourquoi pas, relayeur à la limite, mais je trouve que pour l'allumer...
C'est-à-dire, vous auriez préféré, par exemple, Basile Boli que Jul, quoi.
Ou même quelqu'un qui représente vraiment les Jeux Olympiques, parce que c'est pas vraiment un sport olympique, le football.
Il y a un côté pipolisation
C'est ça, moi, ce qui me dérange. C'est vrai que Jul, c'est très bling-bling, ça attire du monde, on est d'accord. Ouais. J'entendais l'auditeur Karim avant moi. Effectivement, les gamins étaient contents. Mais à la limite, faire un concert géant gratuit, mais pas ça, quoi. Enfin, je suis désolée.
D'ailleurs, il y avait un concert de soprano le soir même.
Ça,
peut-être que Jul aurait pu faire un concert.
Un soprano, ça aurait été mieux pour la flamme.
Mais non, moi, je suis assez d'accord. Pourquoi pas un sportif ?
Oui, pour ça, d'ailleurs, Mbappé, puisqu'il est disponible.
Mais tout le monde s'attend à Zidane parce que c'est aussi un sportif qui est né à Marseille. On a tous en mémoire l'image extraordinaire de Mohamed Ali qui allume la flamme olympique à Atlanta.
Alors qu'il a la maladie de Parkinson.
Et on le voit d'ailleurs parce qu'il tremble, il tient ça. Et c'est une des images qui est devenue une image historique d'ailleurs. L'image de Jul, je pense pas, restera dans l'histoire.
Ben voilà,
allez-y, Julie.
pense à ça aussi parce que dans la semaine, j'écoutais l'émission d'Estelle Denis et en fait, ils ont eu un auditeur qui s'avérait être Joseph Mahmoud qui disait que il avait pas pu participer en fait et qu'il était hyper déçu en fait de pas avoir été contacté pour être relayeur au moins quoi. Et je trouve ça dommage
Parce qu'on est un peu dans le vu à la télé aussi.
Julie, on va écouter ce qu'en dit Florent aussi qui est dans l'Orne. Bonjour Florent.
Ouais, bonjour.
Agriculteur. Et vous regrettez le choix ou pas?
Ouais, un petit peu. Moi, je suis de la vie de Julie. Ça a fait une super belle fête à Marseille avec un Marseillais ultra connu. C'est super. Sauf qu'on a oublié que ce sont les Jeux Olympiques, événements planétaires en France. C'est pas les Jeux Olympiques à Marseille. Qu'on fasse arriver la flamme à Marseille avec l'histoire de la Grèce. C'est super qu'après la flamme parte de Marseille pour aller à Paris. L'histoire Paris-Marseille. Enfin, ça, c'est super. Et c'est tout ça jusque-là, c'était très bien. Mais allumer la flamme, alors que c'est un événement, à la base, c'est pour les sportifs. C'est pas pour les gens où est-ce qu'il y a des sportifs qui nous divertissent. À la base, c'est un événement pour les sportifs où est-ce que nous, on les admire. Donc oui, ça aurait dû être un très grand sportif de l'olympisme. On peut prendre un qui vient d'arrêter il n'y a pas longtemps, un Martin Fourcade qui est mondialement connu. Mmh. Ou on extrapole et on dit on ouvre un peu. Mais on a des gens
Fourcade,
qui sont mondialement
les JO
plus connus. Je pense à Thomas Pesquet, par exemple.
Qui était là, qui d'ailleurs est... Pesquet, il était dans la foule, hein, il était à Marseille, on l'a vu sur le Vieux-Port.
Oui, et mais être dans la foule, être porteur ou être le symbole de celui qui allume la flamme, il y a quand même de poids de mesure. Que de Joule après, soit même c'est lui qui aurait allumé au Vélodrome à la place de Didier Drogba, ça n'aurait pas posé de soucis parce que là c'était réapproprié dans Marseille, dans le Vélodrome, qu'en plus Joule a rempli, va remplir dans plusieurs concerts. Mais allumer la flamme à l'arrivée en France pour un événement des sportifs, eh ben, il y avait quand même pléthore de champions français où on extrapole avec quelqu'un mondialement connu pour, et qui divise très peu, hein, Thomas Pesquet qui est sportif, on va dire, à côté quand on est astronaute. Mais sinon, on a des Martin Fourcade, David Douillet, double médaillé olympique. Enfin, voilà, on a quand même pléthore de choses et on a enlevé l'événement des sportifs. Et on a fait un événement du peuple.
Un événement people, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça, un événement people. Alors qu'il a fait une super belle fête à Marseille. Et puis, les Marseillais sont très chauds là-dessus. C'était super de faire ça là-bas. Mais par contre, ça a fait trop Marseillais. Il y a bien eu des commentaires, des commentateurs étrangers qui, c'est qui est en train d'allumer la flamme en France?
Puisqu'on a fait une liste de noms, alors là, en dehors du domaine du sport, mais par exemple, un exemple, à mon avis, mieux que les valeurs prônées par Jules, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Henri, le héros au sac à dos qui était intervenu lors de l'attentat d'Annecy et qui s'était interposé pour sauver les enfants qui étaient poignardés? Ça paraît plus pertinent que Jules avec l'éloge des violences urbaines et du trafic de drogue. Excuse-moi.
C'est sur ce bon mot que nous conclurons la discussion.
Je vous laisse l'éditer, Truchot.
Merci beaucoup.
Merci de ce récit édifiant.
Merci à Florent d'avoir conclu notre discussion. Alors, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Là, on en a parlé 20 minutes avec vous. Le porteur de la flamme, Jules, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est un choix raté, oui ou non? On va voir ce que vous en avez pensé. On y va? Consultation? Soit raté.
Oui,
78%.
Et voilà.
Ceux qui ont suivi.
S'il faut aller dans le sens de la masse, Olivier, comme tu le dis.
C'est la décadence assurée.
Le camp Jean-Loup Bonamy a gagné.
Eh bien sûr.
Dans un instant, GG, c'était match. Un enfant heureux, c'est avec un papa et une maman. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans l'entretien vidéo qu'il a accordé au magazine Elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de l'État? Oui, c'est ce que dit Jean-Louis Olivier. Non, c'est ce que disent Zora et Frédéric. À tous.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, ce soir, 19h-20h30. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff, RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui Frédéric Farah, Zora Bitan et Jean-Loup Bonamy, un professeur d'économie, un professeur de philo. Zora qui est cadre de la fonction publique. On va lancer le GG 7 et match maintenant.
RMC.
GG 7 et match.
Alors, où en est-on ? Dans le GG 7 et match, on va ouvrir la cellule familiale.
Ça s'annonce.
Grâce au président de la République. Ou à cause du président de la République. Si vous étiez à l'écoute des GG ces derniers jours, vous vous souvenez qu'on a évoqué ce que le président de la République, dans l'entretien au magazine Elle, appelle le devoir de visite pour les pères en cas de séparation. Et puis il y a l'interview vidéo aussi du chef de l'État accordée au magazine Elle. Et là, il évoque justement la cellule familiale. Le père, la mère, la famille aimante.
Quand il y a un père, ben il faut qu'il exerce tous ses devoirs. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Je suis sûr qu'il faut un père, une mère, il faut une famille aimante. Il faut que, en effet, les parents exercent leurs responsabilités et les deux. Parce qu'un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui se sent abandonné, c'est un enfant dont le développement affectif, éducatif, n'est pas le même.
Et là, dans ce qu'il dit, le président de la République, il y a une petite mise en exergue. C'est quand il dit il faut un père, une mère, une famille aimante. Est-ce à dire que pour Emmanuel Macron, la cellule familiale, c'est le père, la mère, symbole de la famille aimante? Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de l'État? Et là, on a un face-à-face avec deux équipes. Oui, pour Jean-Loup Olivier. Non, pour Zora et Frédéric. Mon cher Jean-Loup, tiens, je te donne la minute. Pourquoi tu es d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron? Un père, une mère, une famille aimante. Go.
Je suis d'accord tout simplement parce que le président de la République, là je pense, a énoncé ce qu'on appelle un truisme, c'est-à-dire une évidence, quelque chose qui correspond à ce que tout le monde a dans son esprit, dans son imaginaire, la représentation classique, hyper majoritaire, fondamentale anthropologiquement de la famille, c'est ça. Tu prends un enfant de 3 ans, tu lui demandes de dessiner une famille, de faire un dessin d'enfant, c'est ça qu'il va représenter. Et on voit très bien, en effet, la souffrance qu'il y a pu y avoir pour ceux qui n'ont pas eu de père. Tiens, tout à l'heure, on parlait de rap. Moi, je vais te citer un autre groupe qui s'appelle Sniper, qui me faisait des textes de bien meilleure qualité que Jules, et qui avait fait une chanson qui s'appelait « Sans repère », sur les enfants sans père, en disant que l'absence de père, c'était aussi l'absence de repère. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des émeutes, des violences urbaines, on entend les gens dire « Mais où sont les pères? Les pères ont abandonné les enfants ?» J'entends même des féministes dire ça. Et ben voilà, il dit qu'il faut des pères. Ben, il a raison. Des pères et des repères.
Et des mères.
Et des mères, bien sûr. Et en plus, égalité homme-femme. On ne peut pas tout mettre sur le dos des femmes.
Il a été brillantissime, mon partenaire.
J'étais à votre école, Olivier.
Alors, réponse, du camp d'en face. Alors, qui veut démarrer, Zora ou Fred?
Alors, dans sa phrase...
Tonton ou tata?
Dans sa phrase, il dit « Un enfant heureux, c'est un enfant avec un papa et une maman. »
Et une maman,
oui. Une famille aimante. D'accord? Donc,
il n'a pas dit que c'était exclusif. Hein.
Voilà, oui. Voilà.
Il n'a pas dit que c'était que ça.
Voilà. Donc, non seulement ce n'est pas que ça, d'abord.
Mais c'est enfin la majorité, quand
voilà.
même.
Voilà. Si on part de la majorité, il ne faut pas exclure la minorité et les autres familles. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, on peut être très heureux qu'avec une maman.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas de souci. On peut être très malheureux avec un papa et une maman.
Oui, il n'a pas dit le contraire.
C'est très compliqué, même si je suis assez d'accord avec toi, Jean-Loup, quand tu dis que c'est un truisme et que c'est la majorité et que c'est la vision qu'on a de la famille et qu'elle est traditionnelle et classique et qu'on doit se conformer à la réalité. Ce n'est pas un choix ni une volonté, c'est comme ça. Il n'empêche que la vie montre que finalement, vivre dans une famille aimante, ce n'est pas toujours le fait d'avoir un papa et une maman, c'est le fait d'avoir des adultes aimants. Et quels qu'ils soient, et ça c'est hyper important, des adultes aimants. Il y a des mamans et des papas pas aimants. La maltraitance des enfants dans des familles classiques est exponentielle. Mais oui, non mais ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas avoir un couple.
Il a pas dit des adultes, c'est important ce qu'il dit. Il parle des deux sexes.
Oui.
Il parle d'un papa et d'une maman.
Parce que chacun n'a pas le même rôle.
Et c'est là où, pardon, mais on pourrait faire un bouquin un jour sur les contradictions d'Emmanuel Macron, parce que c'est le même Emmanuel Macron qui a autorisé la PMA pour les femmes, pour les couples de femmes et les femmes seules.
Bien sûr.
Donc là, il y a une petite contradiction. question. C'est-à-dire que
non,
à la fois,
il parle à la majorité.
Non, mais quand
et
on autorise,
parfois, il parle à une minorité.
Non, mais quand on autorise la PMA pour les femmes, on acte le fait qu'il n'y aura jamais de papa et qu'on peut donc se passer de papa. Et puis là, il nous dit finalement, quand même, le papa c'est important pour l'épanouissement d'un enfant. Pardon, mais il y a des contradictions dans notre société.
Emmanuel Macron parle trop.
Non, mais il y a des contradictions. Mais je pense qu'on est tous. Et là, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'à la fois, en ce moment, il y a une. Enfin, on dit oui, finalement, ce qui compte, c'est les adultes qui sont là, etc. Bien sûr, il faut aimer son enfant. Mais quand même, l'idée d'avoir un repère masculin, un repère féminin, c'est pas non plus inutile. On le voit quand même que dans la plupart des cas de délinquance de mineurs, à chaque fois, on tombe sur des enfants, et notamment des garçons, qui n'ont pas été élevés par un homme. Le père n'est pas là, le père a déserté, le père, je sais pas où il est, etc.
Ou le père est là, mais il joue pas son rôle.
Et donc, il y a sans doute, effectivement, un manque d'incarnation de l'autorité paternelle, ça existe. Et arrêtons d'être démagos en expliquant que non, il suffit qu'il y ait des adultes qui aiment pour que tout se passe bien.
Non, mais en fait, il s'est trompé. L'idée, c'est l'autorité d'un père et d'une mère. C'est l'autorité dont il faut parler.
Et l'amour. Oui, mais cette autorité, elle peut être à la fois de la mère et du père. Et penser que la mère, c'est la douceur, la gentillesse, et le père, c'est l'autorité. C'est un peu caricatural, quoi. Oui. Je veux dire,
parfois, les mères sont plus sévères que les pères.
Évidemment, parfois, les mères incarnent plus l'autorité du père. Sortons des images un peu convenues de l'affaire. Le père, c'est la force, la mère, c'est la gentillesse. Et puis, que diable, on peut espérer autre chose du président de la République que ces platitudes bien convenues. Hein, ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, effectivement, on peut avoir aussi un père qui fait défaut, un père qui n'est pas là. Et l'important,
si on explique que c'est pas grave que le père ne soit pas là, après
c'est pas
on
que ce soit pas grave. Bah, c'est d'avoir des adultes.
On l'a un peu acté quand même.
Non, mais je suis quand même très content de savoir que. En 1970, dans le Code civil, on a abandonné ce qui était l'autorité paternelle, on a appelé ça l'autorité parentale. Hein. Mmh. Avant ça, il n'y avait que l'autorité... Bon, je pense qu'Emmanuel Macron est au courant que depuis 54 ans, il y a eu une petite évolution dans le Code civil. Hein. J'espère qu'il est au courant, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il faudra l'informer. Ça s'appelle les réformes Carbonnier. Et fondamentalement, l'autorité, elle peut être partagée par les deux.
Crois que justement, on a foutu dehors le père, moi. Je pense qu'on a été trop loin. Non, effectivement, avant la famille, c'était le père tout-puissant qui était le chef, et même la femme ne devait rien dire, parce que c'est le père qui avait autorité sur tout. D'ailleurs, la femme ne pouvait pas faire un chèque sans demander autorisation de son mari. Et on est passé de l'excès à l'inverse. On a expliqué que le père, finalement, s'il n'était pas là, c'est pas grave. On peut finalement élever entre femmes des enfants, etc. Et maintenant, c'est comme toujours, on est en train de remettre le curseur au milieu en disant, mais attention, on a quand même besoin d'un père pour payer la pension alimentaire, on a besoin d'un père pour incarner l'autorité lorsque t'as un ado un peu chaud, un peu bouillonnant, un garçon qu'il faut un peu contenir. Et donc, on se rend compte qu'on a été trop loin. Et
c'est parce que la société teste la décadence et elle se rend compte que finalement, ça marche pas mieux. Et donc, elle revient aux classiques et aux fondamentaux.
Oui, mais
le problème, c'est que la société.
On revient au bon sens.
Sauf que la société, dans la composition de la famille, elle a évolué.
Il y a 1,7 million de familles monopparentales.
Il y a des familles
monoparentales, ça veut dire une mère. Hein, globalement, 90% des cas.
Et il y a des familles, recomposées. Et
aussi, c'est vrai.
Et ça, c'est
il y a des beaux-pères, des belles-mères.
Et ça, il joue parfois encore mieux le rôle, le beau-père, la belle-mère.
D'ailleurs, sans forcément avoir le statut de beau-père.
Sans avoir un statut particulier et assume une autorité. Et ça fait des enfants tout à fait épanouis. Je suis étonné que le président Macron sait très bien comment la famille s'est remaniée, qu'on peut effectivement être dans un environnement aimant avec des parents du même sexe ou des beaux-parents, et que quand même ignorer tout cela et juste nous présenter un ancien modèle en disant ça c'était bien, moi je trouve ça un peu léger, quoi. Vraiment. Ouais.
Donc il se trompe.
Oui, largement.
En fait, le président de la République parle à la majorité.
Je vois pas en quoi, pardon, hein, mais Emmanuel Macron il peut dire des bêtises, mais là je vois pas en quoi il dit une bêtise quand il dit un enfant heureux, c'est avec un papa et une maman. Je pense qu'il aurait dû dire un papa et maman aimante, parce qu'il y a des parents qui sont
rajoutés, une
famille aimante.
On peut dire ça sans être accusé d'être appartenant à la Manif pour tous, parce que j'ai lu ça dans l'IB. On dit Emmanuel Macron c'est la Manif pour tous.
Le problème c'est toujours celui-là.
Non, mais on n'est pas obligé d'aller dans la caricature, et le président Macron aussi peut amener de la nuance en disant qu'une famille aimante, c'est peut-être un père et une mère, mais aussi peut prendre d'autres formes, et il n'y a pas que celle-ci.
Oui, mais il va plus loin, il dit un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui se sent abandonné, un enfant dont le développement affectif
oui,
et éducatif
n'est pas le même. Non, mais là, il aurait pu être complet, et il aurait pu dire ça, et ajouter de toute façon, quelle que soit la forme de la famille, il faut de l'autorité et la présence aimante d'une famille.
Oui, mais le fait d'être deux, sans donner c'est aussi le partage des tâches.
À deux, bah, tu peux être deux hommes ou deux femmes.
Tes parents comme moi, tu sais très bien qu'à deux, c'est pas la même chose d'être tout seul pour élever un gamin, notamment lorsqu'il est ado, quand tu vas travailler, quand tu as les horaires décalés. Donc l'idée oui, aussi, c'est d'élever à deux un enfant, c'est quand même plus simple. On partage les tâches.
Et deux femmes et deux hommes, c'est pareil.
Non, mais
ils sont deux.
Aujourd'hui, on le sait très bien statistiquement, c'est la deuxième journée de la femme. La femme en fait deux fois plus dans les tâches quotidiennes pour les enfants qu'un homme. Et elle se retrouve à la fois assume une journée de travail plus l'équivalent à la maison.
Jean-Loup ?
Oui, la charge. Oui, je pense que Olivier a souligné deux choses qui sont, enfin même trois choses qui sont très importantes. Un, deux parents aimants, on est d'accord. Un enfant peut être heureux avec deux mamans aimantes ou deux papas aimants. Mais on n'a jamais dit le contraire. Mais il y a quand même une polarité du masculin et du féminin. Ce n'est pas la même chose d'être un homme ou d'être une femme. Donc, ce n'est pas la même chose d'être un père ou d'être une mère. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les familles, les familles avec un couple gay ou lesbien. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une polarité du masculin et du féminin dont il faut tenir compte et qui est importante pour la construction de l'enfant. Deux, comme l'a dit Olivier, c'est un élément important. On ne peut pas d'abord jeter les pères à la poubelle et ensuite, quand il y a des problèmes, de la délinquance, des problèmes psychologiques, des femmes seules en famille monoparentale et en surendettement, dire « Ah, mais où sont les pères ? Il faut que le père revienne. » On ne peut pas d'un côté le jeter à la poubelle et après, quand il y a un problème, dire « Ah là là, le père n'est pas là, mais où sont les pères ?» Ben, ils sont à la poubelle, là, on les a mis.
Déjà, le père, il pourra contribuer financièrement aussi.
Voilà,
parce que
financièrement.
Il y a aussi, dans le cas des familles monoparentales, le problème de la pauvreté de ces familles, de femmes seules avec un seul salaire.
Un
enfant, c'est aussi avoir les moyens de le faire.
Un enfant heureux, avec un papa et une maman, oui ou non ? Oui ou non, on va regarder, petit quart d'heure de discussion, discussion express à propos de cette petite phrase prononcée par le chef de l'État. C'est avec un papa et une maman, oui, 66%, non, 34%.
Mais parce que les gens ont eu un papa et une maman, ils en sont contents et ils le savent bien.
Allez, dans un instant.
Ils ont eu cette chance et ils aimeraient bien que les autres l'aient.
Deux policiers blessés dans un commissariat par un forcené qui a réussi à leur attraper l'arme. On va y venir. J'aimerais bien que les policiers au 32-16 nous disent. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment le gars a réussi à saisir l'arme du policier. Alors, normalement, elles sont dans un étui qui a une sécurité. Ensuite, l'arme, elle a une sécurité. On a un policier qui a dû être opéré, l'autre qui est aussi en urgence. Venez en parler avec nous. Je vois beaucoup de policiers qui disent que c'est plus compliqué pour nous. C'est quand on a affaire à des forcenés. C'est comment est-ce qu'on arrive à les maîtriser. À tout de suite au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire ? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running. RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Tous les samedis de 13h à 14h, c'est les courses RMC.
Une heure dédiée aux courses hippiques avec les experts de la Dream Team Sport RMC.
Les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, tous les samedis 13h 14h avec PMU. PMU.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec vous pour discuter, pour débattre. Nous sommes avec Frédéric Farah, professeur d'économie, avec Zora Bitan, cadre de la fonction publique, et l'enseignant en philosophie, monsieur Jean-Loup Bonamy. Les policiers sont sous le choc, on le voit sur les réseaux sociaux, on entend les témoignages, avec ce qui s'est passé la nuit dernière dans le 13e arrondissement parisien.
RMC, les grandes gueules.
Et je suis sûr qu'on va vous écouter au 32-16 réagir, parce que la nuit dernière, ce sont donc deux policiers qui ont été blessés grièvement par un riverain. Il a réussi à prendre leur arme de service.
Oui, selon les faits rapportés par nos confrères de BFM TV, en fait, tout commence hier soir vers 21h15. Il y a deux policiers qui sont appelés quai de la gare dans le 13e arrondissement à Paris par un riverain qui signale l'agression en cours de sa voisine dans les parties communes de l'immeuble. Donc les policiers arrivent sur place. Ils voient un homme de type asiatique avec un cutter à la main qui est en train d'agresser une femme. Donc les policiers interviennent. L'homme est très agité et d'ailleurs il leur intime l'ordre de le tuer. Alors, ils ne l'ont pas tué à ce moment-là, ils ont donné un coup de taser, ce qui a permis de maîtriser cet homme, et ensuite de l'emmener au commissariat. Et à ce moment-là, alors pour l'instant, c'est assez confus, hein, on ne sait pas précisément comment ça s'est déroulé, mais les deux policiers, enfin l'un des policiers s'est fait voler son arme, l'arme de service, au moment où ils étaient en train de fouiller l'individu, et l'homme en question, avec l'arme, a tiré sur les deux policiers. L'un des deux policiers est toujours entre la vie et la mort. L'autre policier est blessé, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Et l'assaillant, lui, a aussi été évacué vers l'hôpital Pompidou sans que son pronostic vital ne soit engagé. Voilà, on ne sait pas qui est cet homme. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi était-il en train d'agresser cette jeune femme? En tout cas, il était particulièrement violent et déterminé puisqu'il a tiré sur ces deux policiers. Alors, on se posera la question aussi de la sécurité de l'arme. Est-ce qu'elle était enclenchée? Donc, il y a beaucoup de questions encore sans réponse. Mais c'est vrai qu'il y a une onde de choc ce matin au sein de la police. Bien sûr, la police est assez sous choc par rapport à ce qui s'est passé.
Oui, il y a beaucoup d'émotions parce que ça se passe dans un commissariat, qu'il arrive à prendre l'arme de service. C'est vrai que c'est toute la question du maintien de l'ordre, surtout quand on a affaire à un forcené, parce que s'ils sont intervenus, c'est quand même, comme l'a rappelé Olivier dans les faits, c'est pour protéger cette femme qui était quand même agressée au cutter, quoi, Frédéric.
Ben, oui, les policiers ont raison d'intervenir, ils ont raison, ils ont utilisé un taser, visiblement, pour le maîtriser. Mais c'est vrai que les grandes questions qui se posent, c'est la sécurité des policiers. Et puis, j'ai lu effectivement que l'étui dans lequel se trouve cette arme est un étui sécurisé, donc sur lequel il n'est pas facile d'agir. Et en même temps, ça rappelle la difficulté du travail des policiers qui régulièrement sont exposés.
C'est l'essentiel de leur travail, hein, d'ailleurs, ça. Oui. C'est l'essentiel des interventions, c'est les violences intrafamiliales, oui. C'est maîtriser sur la voie publique des types qui sont psychotiques, qui sont sous le coup de l'ivresse,
bien sûr.
Et pour protéger les citoyens.
Voilà, quoi, et que c'est un métier qui est tout à fait noble et qui est de jour en jour exposé, effectivement, à des violences de plus en plus terrible, parce que quand même, l'homme en question, c'est terrifiant quand j'y pense. C'est-à-dire, non seulement il s'empare de l'arme, mais il y a une intention de tuer qui est nette. Hein. Je pense que si on tire sur des individus, on sait ce qu'on est en train de faire quand même. Enfin, du moins, j'ose espérer qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de commettre comme acte. Donc effectivement, c'est très inquiétant et toutes mes pensées, évidemment, vont à la police.
Zora.
Bah, ça raconte le quotidien des policiers qui ne sont pas... évidemment, que ce que certains se plaisent à raconter, la police tue,
la police est violente,
voilà,
la police ne nous protège pas.
Voilà, exactement, tout ce quotidien fait d'appels des citoyens pour des rixes, pour du voisinage, pour des violences intrafamiliales, etc., etc. Voilà, un faible salaire, un dévouement total à la nation, à la République. Ces gens ont décidé de travailler pour nous, en tout cas d'assurer notre sécurité. Donc, il y a plusieurs choses que j'arrive pas à comprendre. On vient de voir qu'ils sont en insécurité, puisque l'arme a pu être dérobée. Ça, j'ai pas d'explication. J'espère qu'ils vont s'en sortir, hein, qu'il va pas y avoir trop de dégâts et qui vont s'en remettre. Je leur souhaite en tout cas un bon rétablissement. Et je me dis que voilà, il faut pas jeter l'opprobre, comme dirait l'autre, sur la police. parce que
jeter l'eau propre.
Non, ouais, non, l'eau propre. Non. On peut leur jeter de l'eau propre.
Le niveau monte.
Ah, la décadence.
Voilà. Non, mais c'est voilà. Ça dit que finalement cette police, eh ben il faut la respecter. Et c'est pas parce que il y aurait des individus au sein de la police qui se comporteraient mal qu'il faudrait à chaque fois leur taper dessus dès que certains en ont l'occasion.
C'est une mission de service public essentielle qu'il faut absolument
défendre. C'est celle-là. C'est ce que je te
disais.
C'est la mission du quotidien.
Des
policiers,
c'est la mission du quotidien.
Et c'est de protéger une victime, une femme,
mais oui,
qui est agressée par un homme au QTR.
Mais oui, donc c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, même s'il peut y avoir des rives policières, il peut y avoir de la violence, que la police fait un travail au quotidien absolument nécessaire dans des conditions de plus en plus difficiles. On sait l'état de nos commissariats, on sait l'état du manque de moyens de notre police aussi.
Ouais, justement, ce qui est intéressant, il y a deux aspects. Il y a l'élément de départ qui est l'agression d'une femme au cutter. Ensuite, il y a le deuxième aspect, le plus grave, le plus spectaculaire. C'est ce pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est le fait qu'il se soit emparé de l'arme et qu'il ait tiré sur deux policiers. Sauf que là, on n'a pas vraiment les détails techniques. Non. Donc, si on revient quand même sur l'élément de départ, c'est-à-dire l'agression à l'arme blanche, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une flambée de violence à l'arme blanche et d'agression à l'arme blanche, que ce soit des agressions gratuites, que ce soit des vols crapuleux ou que ce soit dans des rixes entre bandes. Par exemple, on voit les policiers disent que dans les rixes entre bandes rivales, on utilise de plus en plus un couteau qui est l'Opinel 13, qui est le plus grand modèle, le modèle géant d'Opinel qui fait 50 cm une fois déployé. Et par exemple, j'avais pris des notes avant de venir, rien qu'à Tours. J'ai fait une revue de presse donc dans la ville de Tours, une ville française moyenne. Alors, il y a deux jours, encore deux personnes blessées par arme blanche, la nuit dernière. Cela vient s'ajouter à ce qui s'est passé les nuits précédentes. Un quadragénaire a été balafré à vie à coups de cutter. Avant, un jeune homme a été scarifié sur le dos et un autre a été égorgé. Ça fait cinq. Rien que pour la ville de Tours, ces derniers jours, la nuit, à l'arme blanche, t'as cinq personnes grièvement blessées à l'arme blanche dans la ville de Tours. Bah voilà. Donc, sur ça, il n'y a aucune action politique. J'ai d'ailleurs lu dans le Figaro qu'il y avait un projet de circulaire du ministère de la Justice pour dire « Oh bah oui, les gars, comme la justice est surchargée, qu'il n'y a plus de place dans les prisons, les gars qu'on arrête avec une arme blanche, faudrait peut-être envisager que ce soit juste confiscation de l'arme et rappel à la loi, mais pas de poursuite, pas de sanction, puisque de toute façon, on est tellement surchargé. » Bon, bah voilà. Alors qu'on voit qu'il y a une flambée des violences à l'arme blanche qui vont de la rixe entre bandes au terrorisme. Aujourd'hui, le couteau est très utilisé dans les attentats terroristes, en passant par les agressions comme là dans le 13e. Donc, il faudrait peut-être faire quelque chose et être extrêmement ferme justement sur les questions d'armes blanches.
Oui, c'est parce que c'est l'arme que tu as chez toi.
Bah oui, qui est la plus facile à se procurer.
Mais c'est aussi l'arme la plus facile à sortir, à prendre.
Mais
tu sors de chez toi sur ton pâté de maison.
Oui, mais alors,
on t'arrêterait à chaque fois que la police justement contrôlerait un gars et qu'il a un couteau sur lui. Le gars, il ferait, mettons, 2 mois de prison immédiatement. Tu passes un couteau sur toi, c'est 2 mois. Et si tu commets une agression au couteau, là, c'est minimum 10 ans. Je peux te dire qu'il y aurait moins de couteaux sur soi.
Les gens auraient moins de couteaux. Qu'arrive, que se passe-t-il pour ceux qui sont interpellés avec des armes aux manifestations, parce que souvent il y a des fouilles maintenant avant les manifestations ou même avant l'entrée dans le stade, et on retrouve des armes, on retrouve des marteaux, on retrouve des couteaux. Que se passe-t-il? Rien. C'est-à-dire qu'on confisque
à la loi
et on dit merci, au revoir. Donc effectivement il y a une espèce d'impunité.
C'est l'utilisation intensive ces dernières années. Il y avait déjà des couteaux, il y en a toujours eu.
Attends, on a Abdoulaye Kanté qui est avec nous, notre ami policier que l'on connaît. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour à tous.
Bonjour Abdoulaye.
Je voudrais qu'on est saisi par ce qui s'est passé dans ce commissariat du 13e. Comment est-ce que ce forcené a pu attraper l'arme des policiers, quoi?
Bah déjà, avant toute chose, j'ai une pensée pour nos deux collègues, notamment celui qui est un peu mal en point et on espère tous qu'il va s'en sortir. Et effectivement, le problème, c'est que à la base, ses collègues intervenaient justement pour sauver une vie, c'est-à-dire une femme qui faillit mourir sous les coups de cet individu. Et le problème, c'est qu'en le ramenant, sachant que cet individu était hyper, hyper agité, donc du coup, en ramenant au service, au moment où il voulait le faire souffler avec l'éthylotest, donc bien évidemment, un seul collègue ne pouvait pas le faire passer, parce que vu son état d'agitation, il fallait, on va dire, un minimum de protection. Et je pense, après cette enquête qu'il déterminera, dans cette agitation, excitation, on va dire, assez compliquée, donc je pense que l'individu s'est saisi de l'arme de notre collègue, sachant que dans l'aide des étuis où on a une rétention de sécurité et qui permet justement pour éviter ce genre de cas. Et je peux dire que c'est très, 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 très rare que ce genre de cas arrive, quoi.
À moins est-ce que la protection était mise?
Je pense que oui. Après, si c'est un individu, je vais vous dire, après, c'est l'enquête qui le déterminera. Mais après, je pense qu'effectivement, on sait que là, quand ce genre de personne a eu le cran, entre guillemets, de saisir l'arme d'un collègue, c'est que vraiment, il y avait une réelle intention de tuer,
Il n'y a pas une sécurité sur l'arme ensuite?
Il y a une sécurité, mais en fait, il y a une cartouche qu'on appelle une cartouche chambrée, parce qu'il faut savoir qu'on met toujours notre arme en service, parce que nous sommes en service. Donc, il y a une cartouche qui est chambrée systématiquement. Maintenant, après, soit l'individu est bien connaisseur des armes, ou soit effectivement, c'est...
Donc la cartouche est engagée, chambrée, donc s'il tire, la cartouche part.
Ah, évidemment, parce que c'est normal, parce que nous, comme nous sommes policiers, donc systématiquement, dès qu'on on saisit notre arme et tout, donc on est prêt, évidemment, à intervenir. Donc là, dans la précipitation, je pense que peut-être, il a dû la saisir. Après, effectivement, je n'ai pas tous les éléments.
Donc vos collègues, ils travaillent au commissariat du 13e arrondissement?
Oui, bien sûr. Donc ils ramènent. Donc c'était des équipes de police secours. Donc ils ramènent évidemment l'individu.
Mais tu vois, Abdoulaye, je lisais un peu les commentaires sur cette interpellation. Oui. Il y a sûrement des policiers, des collègues là, de manière anonyme, qui disent. À chaque fois, pour nous, c'est le plus compliqué, c'est le forcené. C'est le type agité. Ce sont les interpellations sur lesquelles on sait que tout peut arriver.
Imprévisible, irrationnel.
Vas-y. Très, très clair. En fait, quand on regarde les chiffres, on a 15 150 policiers qui sont blessés par an. 40 policiers qui sont blessés par jour.
On n'en parle jamais. Hein.
Et le souci, c'est qu'effectivement, chaque intervention, aucune intervention n'est anodine. Et le problème, c'est que quand on est face à un forcené, parce que moi, je les entends, ces experts de canapé 2.0 qui vont nous dire, mais il fallait tirer dans les pneus, ou il fallait peut-être utiliser la manière douce, ou bien essayer de faire la désescalade. Je défie quiconque d'essayer d'interpeller un individu qui ne veut pas se laisser faire. Et là, malheureusement, on a deux collègues qui faisaient face à un individu qui, effectivement, ne voulait pas se laisser faire, sachant que c'est des collègues au préalable ont sauvé.
Mais Abdoulaye, il suffit de voir quand il y a des violences dans la rue, que des gens se battent, etc. Est-ce que les citoyens interviennent, essayent de séparer? Personne.
Malheureusement, le premier réflexe des citoyens, c'est de sortir le téléphone portable.
Voilà.
Et donc, il y a des violences policières.
Voilà. Et donc, le rôle du policier. C'est justement d'intervenir comme il l'a fait avec ce monsieur.
Je ne cesse de façon de le dire systématiquement.
Donc c'est facile de donner des leçons, quoi.
C'est que peu importe, mais ce qui est sûr, c'est que les policiers ne sont pas nos ennemis, les ennemis des citoyens. Ils sont là pour justement sauver les citoyens. Malheureusement, nous en avons deux au péril de leur vie qui, j'espère vraiment, je vous le dis parce que j'ai un peu d'émotion, parce que j'espère vraiment que notre collègue va s'en sortir, parce que c'est quand même, au-delà d'un policier, c'est un humain, c'est un père de famille. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste simplement faire notre travail et rentrer en vie.
Mais surtout, ce qu'il faut souligner, Abdoulaye, c'est aussi que lorsque vous, policiers, vous intervenez, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, sur qui vous allez tomber.
Mais on connaît pas les individus.
Voilà, visiblement, la personne est à la fois dangereuse et dérangée, je pense, peut le dire. Mais ça, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que on vous appelle.
C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que dès qu'il y a une action de police et qui est filmée, etc., qui est balancée sur les réseaux sociaux, je demande toujours de faire très attention, parce qu'on ne sait pas quels sont le avant ou l'après. Chaque intervention. Aucune intervention n'est anodine. Et on a une preuve, encore une fois, que des policiers qui vont sauver une vie, et à l'issue, on ne sait pas quelle sera l'issue finale. Et là, malheureusement, ce qui est encore plus frappant, c'est que ça s'est passé dans notre enceinte, dans notre commissariat.
Et ils ont sauvé cette femme.
Ils l'ont sauvé, et c'est, malheureusement, c'est en second plan, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, encore une fois, on espère que nos collègues vont s'en sortir, et l'enquête, après, dira le reste.
Et c'est vrai ce que disait Abdoulaye, 15 000 policiers par an, c'est
beaucoup.
C'est énorme, 15 000 policiers par an.
Il faut rappeler que c'est un métier dangereux.
Et on l'oublie, c'est vrai que souvent on met en avant la critique de la police, mais c'est vrai que...
Mais Abdoulaye, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui, comme on le soulignait avec les chiffres que donnait Jean-Loup Bonamy, c'est qu'aujourd'hui, c'est la question du couteau et de l'arme blanche. Tu vois, avec Olivier, on était à Marseille, comme tu le sais, on a pu discuter avec certains de tes collègues qui étaient en civil au milieu de la foule, et c'est ce qui les inquiétait le plus, c'était ça.
C'est le type un peu dérangé.
Le type un peu dérangé qui est parti le matin, ne serait-ce qu'un Opinel ou quoi que ce soit, et qui, d'un coup, parce qu'il y a du monde, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a l'effet de masse,
il a pris des stupéfiants.
Le type décompense et à ce moment-là sort son arme. Sort son couteau.
Aujourd'hui, en fait, si tu veux, il y a une forme de banalisation sur le couteau. Si on le voit, quand tu vois qu'il y a quand même des gamins, même sur Snapchat, des trucs comme ça, etc., qui s'affichent en entrant dans un collège avec un couteau dans leur sac pour essayer d'intimider. Et le couteau, aujourd'hui, c'est une arme que tu peux trouver partout. Donc, c'est très difficile de légiférer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu as des individus qui vont balader avec des couteaux.
C'est l'américanisation de la société, sauf que comme on n'a pas d'armes comme aux États-Unis parce que c'est illégal, on a des couteaux. Voilà. On n'a pas d'armes à feu, on a des couteaux.
Ouais, mais Abdoulaye, tu te vois avec tes collègues contrôler dans la rue, faire de la palpation simplement pour savoir s'il y a une personne à un couteau, c'est pas possible.
Bah, disons que le contrôle, c'est pour ça que tu vois, la question du contrôle d'identité a été remis en cause plusieurs fois, mais je le dis encore une fois, c'est que quand on contrôle, c'est que déjà deux, c'est sur réquisition de procureur, c'est que la loi nous l'autorise, et effectivement, forcément, donc on va essayer de palper, évidemment, face à un événement, etc.
Mais Abdoulaye, quand par exemple on est palpé à l'entrée d'un stade de foot.
Oui.
Et parfois, les policiers vont tomber sur un couteau. Qu'est-ce qu'il arrive pour la personne qui portait le couteau ? On lui confisque son arme, et voilà.
Bah, tu sais que l'excuse souvent, c'est de dire écoutez, voilà, c'est pour couper mon sandwich ou un truc comme ça. Et malheureusement, donc, vu qu'il y a une foule et tout, donc, je pense que maintenant, malheureusement, avec l'État, donc, on ne peut pas faire autrement. Donc, on met de côté et la personne rentre, c'est-à-dire qu'on lui confisque, tu vois. Et. Oui. J'ai envie de dire aussi que toute personne qui porte un couteau...
On a le droit de se balader avec un couteau.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non, c'est interdit.
Donc c'est interdit.
Ah oui, mais alors, même un opinel.
C'est comme
tu pars en pique-nique, tu fais comment ?
C'est comme une. C'est après, j'ai envie de dire, tu peux le laisser dans ta glacière ou chose comme ça, mais pas sur toi.
Tu peux.
C'est tout le paradoxe. C'est parce qu'on a des gens bien intentionnés. Mais qu'ils disent, moi, je suis rassuré. Tu vois, je suis rassuré d'avoir un couteau, Abdoulaye.
Si jamais,
on le connaît pas, moi, je le connais
pas. C'est quand même l'idée la plus absurde.
Ouais. Exactement. Moi, je peux pas savoir si t'es quelqu'un de bien intentionné. De base, je ne te connais pas. Et du coup, si toi, tu dis, écoutez, je suis bien intentionné. Oui, mais moi, je ne crois que.
Mais il y a des gens qui se protègent, qui se disent, j'ai un couteau pour me protéger.
Il y a la police pour ça. Et le 17.
Abdoulaye, je te remercie d'avoir été quelques instants avec nous. Merci, Abdoulaye. Policier à Paris, écoutez, venez, continuez d'en discuter avec nous au 32-16, justement. Non, oui, non, je veux savoir où on en est.
Ça appelle au 32-16 ?
Non, stop. On va vous dire la vérité. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir, là, dans 3 minutes, on aurait dû avoir avec nous Mathieu Kassovitz.
Oui, on vous l'avait annoncé.
Voilà, on vous l'avait annoncé.
Pour vous parler
de son film sur le cannabis qui va être projeté à l'Assemblée nationale. Sauf que Mathieu Kassovitz a eu un contretemps, il a dû repasser chez lui. C'est de l'autre côté de Paris et que pour venir jusqu'ici, visiblement, c'est très compliqué, que ce soit au niveau des transports en commun ou sur la route.
Eh bien, nous ne fumerons pas un joint matin avec Mathieu.
Du coup, on a proposé à Mathieu Kassovitz. Parce que sinon, il sera arrivé pour les 10 dernières minutes de l'émission, ce qui aurait été dommage. Il y a un vrai débat de société autour de ce film qui va être proposé à l'Assemblée nationale au mois de juin prochain. Donc, on a proposé à Mathieu de venir nous voir lundi ou mardi prochain pour qu'on puisse en parler tranquillement. Donc voilà, on est en train de bouger un peu l'émission, de passer au direct.
Donc,
vous savez ce qu'on va faire ? Suite des GG dans un instant. Voilà, on va faire ça.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à tout à l'heure.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Cruchot.
En direct sur RMC, les grandes gueules avec vous, 32-16 pour discuter, pour débattre. Les grandes gueules, c'est à la télé, c'est RMC Story, c'est à la radio, c'est RMC. Et la roue tourne, les amis, la roue tourne, la RMC, la roue multicache. 20 000 euros à gagner chaque jour. La roue est de retour. Vous venez d'entendre le son. Vous m'envoyez roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 euros en vous inscrivant. Donc à vous de jouer, à vous de gagner. On y va pour un nouveau petit sujet de discussion.
Les grandes gueules.
C'est toujours ça que les politiques n'auront pas.
Non imposable, comme le rappelle Jean-Loup Bonamy, effectivement. On avait même demandé confirmation
à Bruno Le Maire.
À Bruno Le Maire.
Dans son livre vendu à
1800 exemplaires.
1800 exemplaires, il le dit, page 54.
Alors, parlons de l'une des enseignes préférées des Français qui s'appelle l'enseigne Action, le magasin Action. Un responsable du magasin Action a été licencié à la fin du mois de mars parce qu'il a consommé un paquet de mini saucissons, mais il ne l'a pas dit.
Oui, il s'appelle Ludovic, c'est un salarié, ça fait 8 ans qu'il travaille pour Action, cette célèbre enseigne de discount qui cartonne partout en France. Effectivement, tout s'est interrompu brusquement. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu une lettre le 26 mars dernier, une lettre du licenciement. Son tort, avoir mangé un paquet de mini saucisses sans passer à la caisse. C'est le Parisien qui nous raconte cette histoire. Vos agissements ont causé au magasin Action de Nogent-sur-Oise un préjudice de 5,48 €. Voilà ce qui est écrit dans la lettre, c'est ce que dit Parisien. Alors lui, il explique Ludovic qu'il avait une petite faim pendant la journée. J'ai pris une canette, un paquet de gâteaux et des mini saucisses en rayon et je suis allé dans mon bureau pour